Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Merci d'avoir choisi Canal Académie. Dans cette émission, nous poursuivons notre série sur l'histoire des fauteuils de l'Académie française. Nous avons déjà évoqué le 24e, le 25e, le 36e fauteuil. Je crois que c'est notre 5e émission. Et nous allons évoquer maintenant le 19e fauteuil, celui sur lequel a été installé en mars 2009 monsieur Jean-Loup Dabadie. Alors nous partageons ensemble ce moment et en imagination nous nous portons sous la coupole de l'Institut de France où siègent les académiciens et à l'Académie française, chaque académicien nouveau se voit attribuer un fauteuil numéroté entre guillemets car en fait il ne porte pas de numéro mais il est important pour lui de connaître ses prédécesseurs. Alors cette histoire des fauteuils nous la devons à Mireille Pastoureau, conservateur et directeur de la bibliothèque de l'Institut et Mireille Pastoureau prépare à l'occasion de l'élection de chaque nouvel académicien l'histoire du fauteuil sur lequel il va siéger. C'est à la fois un cadeau de surprise et de bienvenue. Bonjour Mireille Pastoureau.
Bonjour.
Merci d'être venue d'avoir monté quelques étages pour venir jusqu'au studio de Canal Académie. C'est ainsi donc que vous avez préparé l'histoire du fauteuil 19 sur lequel vient de siéger Jean-Loup Dabadie qui a été reçu sous la coupole le 12 mars 2009. Alors, qui fut le premier occupant de ce fauteuil 19?
Alors, tout d'abord, précisons que Jean-Loup Dabadie est le 22e titulaire de ce fauteuil, ce qui veut dire qu'il a un grand nombre de prédécesseurs, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, il y a beaucoup de personnalités à illustrer. Et la première, sur laquelle vous m'interrogez, n'est plus connue de nos jours, mais très importante, puisque c'est le premier académicien du 19e fauteuil, c'est François de Porchères d'Arbeau, qui fut admis à l'Académie dès 1634.
Avant la création de l'Académie ?
Exactement. Il faisait partie du petit cercle d'hommes de lettres que Valentin Conrart, qui est un écrivain et un savant de l'époque, avait réuni autour de lui. Et ce petit cénacle, ce petit groupe, a préfiguré l'Académie. Et c'est l'année suivante que le cardinal de Richelieu a institué l'Académie française avec ses statuts et toute son organisation. Donc, Porchères d'Arbeau fait vraiment partie du premier noyau de l'Académie française.
Il va y rester 6 ans, puisque je vais citer ses dates, 1586-1640. Donc là, il est élu en 1634. Donc il va rester quelques années. Et puis alors, le second qui lui succède, donc, est un peu oublié aussi.
Il est un peu oublié, mais connu néanmoins parmi les spécialistes de la langue française. C'est Olivier Patru, qui était un avocat au Parlement, et qui est considéré comme l'un des maîtres de l'élégance au XVIIe siècle. Vous savez que la pureté de la langue était recherchée par l'Académie française, et donc il a contribué aux travaux de l'Académie pour épurer cette langue qui était remplie de mots italiens, de mots latins, de mots de dialecte. Donc, il était un excellent connaisseur de la langue et il est resté célèbre parce que son discours de remerciement, lorsqu'il a été reçu à l'Académie, était si remarquable qu'il est devenu une tradition désormais de demander à chaque académicien qui était reçu de faire un discours de remerciement, tradition qui est perpétuée jusqu'à nos jours.
Remerciements et éloge du prédécesseur.
Et éloge du prédécesseur, exactement. Parce qu'au début, c'était surtout un éloge du roi, puisqu'on n'est pas à l'époque de Louis XIV. Et donc, éloge du prédécesseur également.
Alors, succède à cet académicien Olivier Patru, 2 autres académiciens un peu aussi oubliés. Décidément, dans ce XVIIe siècle, on ferait bien de se rafraîchir un peu la mémoire. Nicolas Potier de Novion, qui était un parlementaire, et Philippe Guabeau-Dubois, qui était lui un traducteur, donc encore un spécialiste de la langue. Et enfin, nous arrivons au 5e titulaire du fauteuil, l'abbé Charles Boileau. Alors, s'agit-il du célèbre Boileau ?
Et non, il ne s'agit pas du célèbre Boileau. Et ce qui est très amusant, c'est que dans ce fauteuil, nous avons trois homonymes de personnages célèbres. Et M. Dabadie avait pensé à un moment, indiqué dans son discours de réception, qu'il avait donc le Boileau, mais ce n'était pas le bon Boileau. Le premier, Porchère d'Arbaud, n'est pas Honorat de Porchère Laugier, qui était plus connu que lui. Et plus loin, nous verrons que Marie-Joseph Chénier n'est pas André Chénier, n'est que son frère. Et puis, bon, pour des raisons de longueur du discours et de rythme, M. Dabadie a retiré ce passage de son discours. Donc, l'abbé Boileau est un homme d'église, un prédicateur, et qui est moins connu que Nicolas Boileau des Préaux, qui est son contemporain. Mais c'était un grand prédicateur qui prêchait à la cour de Louis XIV et qui avait de l'esprit. Et vous savez qu'il y a une tradition à l'Académie française d'élire des hommes d'église qui autrefois étaient très bien représentés.
Et qui effectivement en profitait pour parler et faire des discours d'une éloquence très grande. Alors après ce Charles Boileau, on a un autre abbé, donc autre homme d'église poète, car on pouvait être les deux à l'époque, qui s'appelait abbé Gaspard Abeille, qui a été élu en 1704. Et alors après le 7e, 8e, 9e et 10e titulaire, ce sont des académiciens qui étaient membres de deux académies, Académie des inscriptions et belles-lettres et Académie française. Donc depuis les débuts, on a pu cumuler.
Voilà, on a pu cumuler, mais c'était tout de même très rare. Et il est exceptionnel de voir dans un même fauteuil comme celui-ci une telle tradition d'appartenance à deux académies. Nous verrons plus loin certains membres également, membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Et donc c'est tout à fait rare tout de même d'en voir quatre à la suite.
Alors le premier, abbé Nicolas Hubert de Mongeau. Suppose, oui, celui-ci, oui, qui, oui. Le pauvre homme était atteint d'une cruelle maladie, il faut quand même le dire.
Mais oui, il n'a pas écrit grand-chose dans notre petite exposition. J'ai cité une anecdote, il était de santé fragile et souffrait notamment de vapeurs. Et un jour qu'on lui demandait ce qu'étaient que les vapeurs, il répondit « c'est une terrible maladie, elle fait voir les choses telles qu'elles sont ».
Peut-être faudrait la souhaiter à beaucoup. Alors, après ce Nicolas Hubert de Mongeau, c'est Charles Duclos ou Pinault Duclos, qui lui aussi était membre de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions. C'était un grammairien, un historien et un romancier. Nicolas Bozé, qui lui était aussi aux inscriptions grammairien et traducteur. Et Jean-Jacques dit l'abbé Barthélemy. Alors cet abbé Barthélemy, il est tout de même un petit peu plus connu.
Oui,
lui.
L'abbé Barthélemy est connu à plusieurs titres. D'une part, c'était un grand spécialiste de langue orientale, enfin de l'arabe, le syriaque, l'hébreu, archéologue. Et il est devenu conservateur du cabinet des médailles de la Bibliothèque du Roi. Actuellement Bibliothèque nationale, et toute sa vie, il a augmenté la collection du cabinet des médailles. Il a eu un grand rôle à la Bibliothèque du Roi. Par ailleurs, il poursuivait des publications érudites, ce qui lui valut d'être élu à l'Académie des inscriptions. Il est allé à Rome avec l'ambassadeur de France, le duc de Choiseul, et... Historiquement, il a une particularité. Il fut le dernier académicien élu par l'ancienne académie. Il a été élu en 1789,
juste avant la suppression
des académies, ce qui a un peu brisé sa carrière. Mais il avait publié en 1788 un ouvrage qui est resté très célèbre pendant des décennies. Il s'agit du Voyage du jeune Anacharsis en Grèce. C'est un ouvrage pédagogique qu'il a mis 30 ans à écrire. Il a vraiment beaucoup, beaucoup travaillé pour rédiger cet ouvrage, qui s'adresse plutôt à la jeunesse et qui présente la Grèce sous tous ses aspects, mais d'une façon extrêmement pédagogique, sous la forme du voyage d'un jeune homme, d'un jeune scythe qui s'appelle Anacharsis, qui va à Athènes, qui visite la Grèce, qui est reçu chez les Grecs. Donc on a des détails sur la vie quotidienne, sur le théâtre, mais également sur l'histoire. Tout cela se passe à l'époque de Philippe, le père d'Alexandre, au 4e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est un livre qui a eu énormément de rééditions et qui était accompagné d'un atlas également très diffusé.
Après l'abbé Barthélemy, alors voici notre Marie-Joseph Chénier, qui n'est pas le poète André Chénier, mais son frère. Son frère aîné ou son frère cadet? Son frère cadet, je crois.
Et voilà, son frère cadet, mais qui était à l'époque beaucoup plus célèbre qu'André Chénier. Et alors que maintenant, nous ne connaissons plus beaucoup Marie-Joseph Chénier, mis à part qu'on lui doit les paroles du chant du départ. Sa particularité, c'est que c'était un révolutionnaire et qu'il a voté la mort du roi. Et ça, c'est important parce que verrons que Chateaubriand, qui lui a succédé, lui reprocha cet aspect. Et donc il a été nommé en 1795, je dis bien nommé et non élu, car nous sommes au moment de la création de l'Institut, les académies ont disparu, l'Institut national est créé et ses premiers membres sont nommés. Et l'Institut est divisé en classes, et il appartient à la troisième classe de la littérature et des beaux-arts, dans la section de poésie. Il est donc nommé en 1795 et il participe à l'organisation de l'Institut de France.
Alors, son frère, évidemment, André Chénier, tout le monde sait qu'il est mort guillotiné. Et puisque ce Marie-Joseph Chénier nous a gratifié du chant du départ, nous allons en écouter quelques extraits.
La victoire en chantant, toujours la barrière, la liberté qui ne nous bat, et du nord au midi, la trompette.
Retour dans notre studio en compagnie de Mireille Pastoureau, directeur de la bibliothèque de l'Institut de France. Nous parlions avant ce chant du départ de Marie-Joseph Chénier et vous veniez de nous dire que c'est Chateaubriand qui lui a succédé.
Exactement. Alors là, il y a eu quelques péripéties, car Chateaubriand fut élu à l'Institut en 1811, mais il ne fut jamais reçu officiellement.
Et pourquoi donc ?
Voilà. Alors, tout d'abord, il fut élu à l'instigation de Napoléon. Alors que Chateaubriand commençait à s'éloigner de Napoléon après l'assassinat du duc d'Enghien, Chateaubriand se sentait de plus en plus monarchiste et Napoléon, au contraire, continuait de lui vouer une grande admiration et ne désespérait pas de s'attacher à cet écrivain. Napoléon a fait dire à Chateaubriand qu'il fallait qu'il se présente à l'Institut, qu'il présente sa candidature sous peine d'être enfermé à Vincennes pour le reste de ses jours. C'est Chateaubriand qui raconte cela. Voilà. Donc Chateaubriand fit acte de candidature. Ce ne fut pas facile car à ce moment-là, l'académie, enfin c'était la classe de l'Institut, était partagée entre les napoléoniens, les royalistes et les républicains. Néanmoins, Chateaubriand s'acquitta de ses visites, surtout chez les personnes qui lui savaient favorables, et fut élu de justesse au second tour par 13 voix contre 12 à Charles Lacretel le Jeune, qui à son tour fut élu quelques mois plus tard. Napoléon fut très satisfait, il prévoyait déjà de lui donner une grande place littéraire, de donner à Chateaubriand une direction générale des bibliothèques de l'Empire, mais le caractère indépendant de Chateaubriand modifia ses projets, car il fallait rédiger le discours de réception. Et selon l'usage académique, ce discours de réception doit consister en un double éloge, celui du prédécesseur, Marie-Joseph Chénier, et de l'empereur. Et Chateaubriand rédigea son discours et selon l'usage, qui existe encore de nos jours, le lut devant ses confrères quelques jours, quelques semaines avant la réception. Et à ce moment-là, les confrères constatèrent que Chateaubriand condamnait ouvertement la révolution dans son discours, exaltait la liberté, blâmait Marie-Joseph Chénier d'avoir voté la mort du roi, ne vantait que fort peu ses ouvrages et rendait en revanche un hommage appuyé aux frères de Marie-Joseph Chénier, André, qui avait été guillotiné en 1794. Alors les académiciens furent très ennuyés. Ils dépêchèrent l'un d'entre eux auprès de Napoléon pour recueillir l'arbitrage de l'empereur et naturellement celui-ci fut furieux. Il a dit qu'il souhaitait au contraire apaiser les parties, rétablir le calme et qu'il ne comprenait pas que M. de Chateaubriand, homme de lettres et homme de goût, ait fait une inconvenance. Car enfin, a dit Napoléon, lorsqu'on est chargé de faire l'éloge d'une femme qui est borgne, on parle de tous ses traits excepté de l'œil qu'elle n'a plus. Et il soulignait que lui-même avait fait quasiment la paix avec les régicides, qu'il dînait avec eux, qu'il s'asseyait à côté de Cambacérès. Enfin bref, il ne souhaitait pas du tout déterrer la hache de guerre. Donc l'empereur rendit le manuscrit raturé de parenthèses et de grands coups de crayon. Chateaubriand dit que l'ongle du lion était enfoncé partout dans ce texte. Et Chateaubriand, qui aurait dû donc corriger le discours, refusa toute modification. Il adressa au président de l'Académie le billet suivant. « Monsieur le Président, mes affaires et le mauvais état de ma santé ne me permettant pas de me livrer à aucun travail, il m'est impossible dans ce moment de fixer l'époque à laquelle je désirerais avoir l'honneur d'être reçu à l'Académie. » De sorte que le discours ne fut jamais prononcé, Chateaubriand ne fut jamais reçu, et il ne siégea à l'Académie qu'après la chute de Napoléon. À partir de la Restauration, il fut autorisé à venir siéger, mais sans avoir été reçu officiellement.
Il y a sans doute d'autres cas d'histoire comme cela aussi dans l'histoire des académies. En tout cas, Chateaubriand, vous avez acquis à la bibliothèque un manuscrit de ce discours avec des autographes de Chateaubriand, formidable.
Oui, tout à fait. Au début de ma carrière dans cette bibliothèque, en 1995, nous avons pu acheter en vente publique un exemplaire manuscrit. Alors, ce n'est pas celui contenant les traces de l'ongle du lion, mais avec des annotations de Chateaubriand, parce qu'il y a eu plusieurs versions, et puis il en avait donné à l'Académie. Bon, comme toujours à l'époque, les documents manuscrits existaient en plusieurs versions. Mais nous ne l'avions pas, et nous sommes très heureux. Il est exposé dans l'exposition. Il est montré. Oui.
Alors, après Chateaubriand, le 13e titulaire, c'est le duc Paul de Noailles qui, comme le titre l'indique, il est duc. Il rejoint donc d'autres ducs à l'Académie. Il y a une sorte de parti des ducs, finalement.
Voilà, on a parlé du parti des ducs à l'Académie. Autrefois, il n'y en a plus de nos jours, mais autrefois, il y en avait plusieurs, voire trois ou quatre en même temps. À l'époque du duc de Noailles, il y en avait deux autres, le duc Pasquier et le duc Victor de Breuil.
Alors, ce duc de Noailles, il a tout de même quelque chose, à la fois pour ou contre lui, je ne sais pas, c'est qu'il a finalement empêché Honoré de Balzac d'être élu à l'Académie française.
Voilà, mais bon, l'écart
était... Enfin, empêché, parce qu'il a été élu, lui, mais c'est...
Oui,
je suppose
l'écart était
rien.
Tout de même très grand. Le duc de Noailles fut élu par 25 voix, contre 4 seulement à Honoré de Balzac, qui n'avait quasiment pas de chance. Et le duc de Noailles a une œuvre d'historien. C'est un historien de Madame de Maintenon, notamment, et de Saint-Cyr, la maison d'éducation, fondée par Louis XIV.
Après le duc de Noailles, c'est Édouard Hervé qui fut élu à l'Académie française. Donc c'est un homme politique, un journaliste, surtout un fondateur de journaux. Puis de nouveau un homme politique, titulaire 15, c'est Paul Deschanel, que l'on connaît comme président de la République.
Oui, et j'ai découvert à l'occasion de cette exposition qu'il fut président de la République peu de temps, de janvier 1920 à septembre de la même année seulement, mais il avait auparavant été longtemps président de l'Assemblée nationale. Il avait au départ une réelle vocation pour les lettres. Il avait une inclination naturelle pour les activités d'écrivain et de comédien, et il se passionnait pour les films de Buster Keaton.
Bon.
Et il avait été élu donc membre de l'Académie française à l'âge de 45 ans, en 1899. Donc bien longtemps, 21 ans avant d'être président de la République.
Et alors on sait qu'il lui est arrivé un accident de train, puisqu'il est tombé du train. Et on en a profité d'ailleurs pour dire qu'il avait des absences et qu'on l'a démissionné finalement.
Oui,
non,
exactement. Voilà. Il a été injustement accusé de troubles mentaux alors qu'il était tout simplement grippé, fatigué. Donc il a démissionné de sa fonction de président de la République. Mais une fois rétabli, il a repris des activités politiques comme sénateur de l'Eure-et-Loir.
Il était également membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Après lui, après Paul Deschanel, c'est Augustin Charles Jonnard. Alors celui-ci a deux caractéristiques. D'abord, il donne son nom à un style, ce qui est quand même assez rare dans l'histoire. Et ensuite, son scrutin ne se passa pas tout seul.
Donc... Voilà. Alors, il a assumé pendant très longtemps, à trois reprises, les fonctions de gouverneur général de l'Algérie, entre 1900 et 1919. Et à ce titre, il a fait construire des édifices publics et il a imprégné l'architecture d'un style néo-mauresque, dit style jaunard, qui était fondé sur un retour à l'esthétique locale et à des emplois emprunt à l'architecture arabo-andalouse, alors qu'avant lui, on construisait des bâtiments tout à fait dans le style français. Donc ça, c'est important, et ces édifices sont très bien étudiés actuellement par les historiens de l'architecture. Et alors, l'autre aspect, c'est qu'il fut nommé ministre des Affaires étrangères en 1911, et après la guerre de 14, il fut le premier ambassadeur de France auprès du Saint-Siège, le premier depuis la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905. Et il a eu un rôle très positif pour le rétablissement de la concorde entre la République française et le Vatican. Et c'est à ce titre qu'il fut élu à l'Académie française, parce qu'il n'a pas écrit d'œuvre. Il a écrit des rapports en tant que gouverneur de l'Algérie, mais il n'a pas d'œuvre littéraire ni historique. Mais il fut un diplomate efficace.
Il y a toujours des diplomates, d'ailleurs, comme il y a des hommes d'église, mais il y a aussi beaucoup de diplomates à l'Académie française.
Et sa particularité est d'avoir, parce que le scrutin a été très mouvementé, et d'avoir été élu contre Charles Maurras.
Provisoirement, parce que Maurras a fini par être élu.
Maurras a fini par être élu, mais l'élection de Jonnart a donné lieu à de grandes disputes. Le scrutin fut tumultueux, car l'Action française fit dérober les bulletins de vote pour se venger, dépité de voir que Charles Maurras s'était battu. L'Action française s'est procuré les bulletins de vote et a publié la liste des académiciens qui avaient voté pour Jonnart. Et c'est à dater de cet épisode qu'on a décidé de brûler les bulletins immédiatement après le scrutin, ce qui se fait toujours, je crois.
Après Jonnart, c'est Maurice Paléologue. Alors évidemment, ce nom fait rêver. C'est un nom descendant, mais descendant lointain, je crois, des paléologues de Byzance. Oui. C'est un diplomate, lui aussi.
C'est un grand diplomate qui a attaché son nom aux relations avec la Russie. Il fut nommé en janvier 1914 ambassadeur à Saint-Pétersbourg. Il a côtoyé la famille impériale. Il a rapporté beaucoup de témoignages sur la tsarine, la dernière tsarine. Il a assisté à certains de ses entretiens avec Raspoutine, et il a communiqué des observations de première main sur les événements qui ont secoué la Russie. Il a également laissé des notes sur l'affaire Dreyfus, qui constitue un témoignage important sur le procès où il avait lui-même déposé. Et donc on a un certain nombre d'ouvrages qui sont des souvenirs de son activité de diplomate.
Après lui, on trouve deux académiciens, Charles de Chambrun, qui lui aussi était un diplomate, et puis Fernand Greg, qui était plutôt un critique littéraire, disons un homme de littérature. Et enfin, nous arrivons à un cinéaste, René Clair, qui a été élu à l'Académie française en 1960.
Donc c'est tout à fait original, puisque René Clair est le premier cinéaste élu à l'Académie française. C'est une personnalité tout à fait attachante. Il était le fils d'un savonnier du quartier des Halles à Paris. Il avait passé son enfance dans les échoppes du quartier des Halles, et toute cette pénétration du petit peuple de Paris ressort dans ses films. Et il avait commencé une carrière, il était passionné par la littérature, ce qui explique son élection à l'Académie, parce qu'il a une œuvre littéraire. Il a écrit des poèmes dans sa jeunesse, il a commencé par une carrière de journaliste à l'intransigeant et a fait ses débuts dans le cinéma comme acteur. C'est là qu'il a pris le pseudonyme de René Clair.
C'est un pseudonyme.
Oui, son véritable nom était René-Lucien Chaumette. Il est devenu assistant de Jacques Baroncelli, puis d'Henri Diamant-Berger. Il a aussi écrit des paroles d'une chanteuse sous un pseudonyme. Donc il a une œuvre très variée. Il a dirigé le supplément cinéma de la revue Théâtre et Comédia. Et il a écrit le livret du ballet Relâche.
Oui, c'est un homme qui ne faisait pas que du cinéma,
exactement,
en vérité. Mais il avait beaucoup de talent, un peu comme Cocteau, qui touchait un peu à tout.
Il a réalisé ce film sur le ballet Relâche. C'est Picabia qui avait écrit le ballet. Et ensuite, il a enchaîné divers films à partir de 1930.
Alors, on va peut-être en citer quelques-uns, tout de même, pour ceux qui les auraient vus. « Ma femme est une sorcière »,« La beauté du diable », je crois que c'était avec Gérard Philippe, « Les grandes manœuvres », 1955, et puis son dernier film, « Les fêtes galantes », qui fut le dernier en 1965. La question qu'on se pose, c'est aujourd'hui, est-ce qu'il serait allé lui plutôt à l'Académie des Beaux-Arts, qui maintenant a une section cinéma, ou à l'Académie française ?
Alors, je pense que dans la mesure savoir, où il a une œuvre littéraire de poète, de journalistes, d'auteurs de scénarios. Je pense qu'il serait élu à l'Académie française. Bon, non. Il y a des noms récemment de cinéastes qui ont circulé ces dernières années parce qu'il était plus qu'un simple réalisateur.
Vraiment un homme de lettres, un homme de culture.
Il a utilisé la langue française. Voilà, il a illustré la langue française.
Autre homme de grande culture avec une surprenante culture, justement, c'est le 21e titulaire, c'est-à-dire le prédécesseur de M. Dabadi, c'est Pierre Moineau, qui était à la fois haut fonctionnaire, écrivain, romancier, enfin, personnage très attachant.
Exactement, qui était modeste, mais qui avait une grande rigueur. C'était vraiment un grand serviteur de l'État, un grand résistant. Il a participé à constituer un réseau de résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, a reçu la Légion d'honneur à titre militaire et il a mené de pair une carrière d'écrivain et une carrière de haut fonctionnaire en occupant des postes dans l'administration culturelle. Il a été conseiller au cabinet d'André Malraux. Il a mis en place la réglementation d'aide au cinéma. Il a organisé la direction des théâtres et de l'action culturelle. Et il était ensuite expert à l'UNESCO, il s'est occupé de l'ORTF. Il y a aussi un aspect de son action dont on ne parle pas toujours. Il était membre de la section française d'Amnesty International, où il a joué un grand rôle. Et c'était un homme extrêmement bienveillant, extrêmement soucieux du développement et de la bonne gestion des bibliothèques. Voilà. Et il laisse un grand vide.
Un grand vide, mais en même temps, si vous souhaitez mieux connaître Pierre Moineau, eh bien, écoutez le discours, l'éloge que Jean-Loup Dabadi lui a consacré lorsqu'il a été reçu sous la coupole. C'est sur le site de Canal Académie. Et puis, si ces histoires de fauteuils vous intriguent et vous amusent, comme c'est le cas pour nous, Mireille Pastoureau et moi-même, eh bien, vous pouvez écouter d'autres émissions sur nos fauteuils, puisque nous poursuivons cette série et nous en sommes à notre 5e émission. À bientôt, Mireille Pastoureau, pour une autre série, puisque les fauteuils de l'Académie, c'est quasiment inépuisable.
Avec grand plaisir, enfin jusqu'à 40.
Voilà, nous n'en sommes pas encore à 40. Merci beaucoup et à bientôt.